Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Ça fait un peu plus de 50 ans, 51 pour être précis, qu'ont eu lieu les premiers sommets de la Terre. C'était en 1972, et force est de constater qu'en 2023, il n'y a quasiment rien qui a bougé. Ça fait donc 50 ans qu'on sait qu'il y a un problème majeur, et qu'on ne fait rien pour la survie de l'espèce. C'est très étrange, et en même temps, ce qui est intéressant avec 50 ans, c'est qu'on peut quasiment faire de l'histoire désormais. Et c'est exactement ce qu'a décidé de faire mon invité du jour, Fabrice Nicolino, qui était journaliste chez Charlie Hebdo et qui est l'un des rescapés des attentats, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Le grand sabotage climatique », dans lequel il expose pourquoi, justement, rien n'a bougé. Vous allez voir, Fabrice, il nous raconte des histoires d'hommes, des histoires de femmes, des histoires individuelles de pourquoi et comment l'ONU s'est intéressée au climat, comment le GIEC a été créé, comment les politiques, au fur et à mesure, français, étrangers, se sont positionnés, et pourquoi on en est toujours, en 2023, à une COP qui n'obtiendra absolument aucun résultat. Vous allez voir, c'est un épisode hyper, hyper intéressant, qui est hyper agréable aussi à écouter, puisque Fabrice, il sait vraiment raconter des histoires. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fabrice.
Bonjour.
Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Bien.
Bien. Qu'est-ce que la phrase extrêmement connue de Jacques Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » vous évoque?
Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Qu'est-ce qu'elle m'évoque? Jacques Chirac, c'était un personnage, par certains côtés, hein, pas par tous, mais par certains côtés intéressant. Il se trouve que je l'ai su par Nicolas Hulot, qu'à l'époque je connaissais bien. Chirac avait une relation assez filiale avec Nicolas Hulot, et il se faisait très chier le dimanche, Chirac. Il allait traîner ses guêtres à l'Élysée. Le dimanche ne semblait pas lui convenir, et il traînait, m'a-t-on dit, en babouche, enfin en chausson pratiquement, et il invitait souvent Nicolas Hulot. Il l'aimait beaucoup. Et Nicolas Hulot était déjà, à cette époque, on va dire écologiste, à sa manière, mais écologiste, on va dire. Et Nicolas Hulot me l'a dit lui-même, il a passé des dizaines d'heures en sa compagnie les dimanches pendant lesquels Chirac s'ennuyait, et donc il lui a rempli la tête. Chirac était d'accord sur tout, et cette phrase que vous évoquez, la maison brûle, on ne sait pas très bien qui lui a soufflé. Alors il y a plusieurs personnes qui prétendent lui avoir suggéré de prononcer cette phrase, dont Hulot d'ailleurs, et on ne sait pas. En tout cas, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque une fumisterie, pour être franc. Une fumisterie parce que c'est un peu pire que d'autres, Chirac, puisqu'il semble avoir été convaincu qu'il y avait quelque chose de grave en route et qu'il aurait fallu... On était en 2002, hein, c'est il y a 20 ans, 21 ans. Et donc, il semble qu'il ait été convaincu et il a lâché cette phrase bien volontiers. Hein, c'est un spécialiste des petites phrases. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pchites et de tous ces trucs-là, abracadabrantesques, etc., etc. Mais derrière, rien. Donc, si vous voulez, c'est le pire de l'action politique pour moi, enfin de l'inaction politique. C'est-à-dire, on annonce des choses, on parle, on bat des bras, et puis, en fait, on ne fait strictement rien.
Est-ce que cette phrase, elle résume pas un peu votre livre d'une certaine manière ? C'est-à-dire que dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire depuis le premier sommet de la Terre en 72 à aujourd'hui, en fait, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on voit notre maison brûle, c'est-à-dire que tout le monde est au courant, même vous reprenez une citation de Pompidou dans les années 70 qui explique qu'il y a un problème. Et en fait, depuis, il n'y a rien qui change. Et c'est assez, enfin, pour moi, en tout cas, c'est assez étrange d'observer ce mouvement. Et en fait, quelque part, je me dis, finalement, le plus honnête dans toute cette histoire, c'est Ronald Reagan. Parce que quand il dit « il n'y a pas de limite à la croissance », parce qu'il n'y a pas de limite à l'intelligence humaine, finalement, c'est le plus sincère. c'est horrible, mais quelque part...
Je pense que Reagan, c'était un homme qui exprimait au mieux l'état du monde réel. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il n'y a aucun doute sur le sujet. et si vous voulez, vous me parlez de Reagan, mais c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire, insupportable, mais extraordinaire. Et lui et sa consœur, Margaret Thatcher, ont joué un rôle très important dans la création du GIEC, ce groupement des scientifiques pour l'étude du climat. Parce qu'au départ, quand il a été question de créer le GIEC en 87, il était question que ce soit une assemblée de scientifiques qui allait plancher sur la question du climat. Et Thatcher et Reagan, qui étaient en plein délire ultralibéral, ont dit « Ah non, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce que laisser les scientifiques entre eux, c'est les militants qui vont emporter le morceau. Ça va complètement déséquilibrer le propos. Non, il faut faire entrer dans le jeu les États et donc leurs représentants. » Et ça a tout bousculé. Parce que le modèle retenu, c'est celui de l'ONU, c'est-à-dire des États et des représentants, ou celui du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été créé, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui a été créé en 1972. Mmh. Donc c'est le même modèle. Il y a des représentants d'États. Donc il y a de la diplomatie dans l'air, si on peut appeler ça de la diplomatie. Et ça a tout changé parce que le GIEC, c'est donc des scientifiques qui établissent des rapports précis de ce qu'ils savent dans leur domaine respectif. Bon, ça c'est la première chose. Mais il y a un autre étage dans l'histoire, c'est que c'est un résumé, ce qu'on appelle un résumé pour les décideurs. C'est ce qui sort des travaux du GIEC. Et ce résumé pour les décideurs, il fait l'objet de négociations infernales entre États et représentants des États, où tout le monde veut arracher une virgule, rajouter un mot, etc., etc. Les États pétroliers, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, pourquoi pas. Donc tout le monde se bat pour obtenir un texte qui fasse consensus. Le consensus est impossible. Et donc, ce qui sort de ce résumé, c'est un résumé, c'est toujours, édulcoré, gravement édulcoré. Moi, je travaille sur, j'ose le dire, je travaille sur la question du dérèglement climatique depuis presque 30 années. Donc, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques au fil des décennies, des scientifiques du GIEC, je veux dire, et qui tous disaient la même chose, c'est-à-dire ce qui sort de résultats du GIEC, c'est en dessous de la réalité, très en dessous.